France Culture.
Les nuits de France Culture.
On le sait, avant d'être le légendaire Sar Rabindranath Duval aux côtés de Francis Blanche, et avant ses célèbres feuilletons radiophoniques, Signé Furax et Bon baiser de partout, Pierre Dac avait été l'une des voix des Français libres qui, depuis Londres, parlaient aux Français d'un pays occupé. Et comme les archives sont là pour nous le rappeler, on se souviendra qu'il fut la voix qui, à la BBC, répondait aux chroniques haineuses de Philippe Henriot sur Radio Paris. Par la suite, du début de l'année 45 jusqu'à la capitulation du Troisième Reich, Pierre Dac avait été correspondant de guerre en Allemagne pour la radiodiffusion française. Au Tyrol notamment, où il réalisa une série d'interviews. Dans l'archive que nous allons entendre, il y croisait la route et tendait son micro à trois personnalités notables: Paul Mauser, petit-fils et héritier du célèbre industriel de l'armement, Leni Riefenstahl, la réalisatrice du Triomphe de la Volonté et des Dieux du Stade, et enfin le docteur Fuke Michels, qui, en épousant Ilsa Braun, la sœur d'Eva Braun, était devenu le beau-frère d'Hitler. Avec une ironie discrète, mais non dissimulée, Pierre Dac les interrogeait en cherchant à savoir comment la vie s'était passée pour eux durant les dernières années, en leur demandant au passage s'ils avaient des nouvelles d'Hitler. Pierre Dac, correspondant de guerre au Tyrol, première diffusion le 8 août 1945, sur les ondes de la radiodiffusion française.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais avoir l'avantage de vous présenter une série d'interviews enregistrées au cours d'une récente mission de reportage effectuée au Tyrol sur le territoire occupé par l'armée française, en compagnie de mes camarades Philippe et Biard de la radiodiffusion française et de mon cousin le distingué reporter-photographe Roger Leroy, membre de l'Académie du diaphragme et de la pellicule réunie. On trouve actuellement dans le Tyrol beaucoup de personnages ayant plus ou moins participé à la vie du Troisième Reich. Ce sont des gens maintenant absolument inoffensifs, dont les déclarations toutes empreintes de gentillesse tentent à démontrer leur parfaite ignorance de ce qui s'est passé au cours de ces cinq dernières années. De véritables agneaux, innocents comme l'enfant qui vient de naître pour tout dire. J'ai eu la bonne fortune, si j'ose ainsi m'exprimer, de rencontrer trois personnalités typiques de l'ex-Grande Allemagne. Et je laisse à présent à vos méditations les déclarations de ces personnages. Je vous parle maintenant de Saint-Antonin, célèbre station de sport d'hiver du Tyrol, située entre Innsbruck et Santiago du Chili. J'ai en particulier ici, bien entendu à mes côtés, une personnalité du monde photographique, M. Roger Leroy, d'un nom français, pour l'excellente raison, c'est qu'il est français. Une raison majeure. Alors vous me direz pourquoi je l'interview, puisque ce sont des personnalités qui sont ici. Enfin, parce qu'il est ici aussi, avec moi. C'est mon cousin, par le marché. Les reporters photographiques, on est d'ailleurs souvent parlé lorsque j'écris des reportages de la France au combat. Alors je. Viens ici, Roger.
Voilà, voilà.
Dis bonjour à tout le monde.
Bonjour, mesdames et messieurs.
Voilà, alors j'ai profité, mesdames et messieurs, puisque mon cousin, le roi, personnalité du monde du reportage photographique est à mes côtés. Nous allons faire une innovation du point de vue radio. Il va vous photographier. Alors ne bougez pas, de rester dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Hein? Parce que ça va comme ça, regarde Roger.
Bah, il faudrait que les enfants se mettent un petit peu plus en arrière.
Ça, et comment en arrière? Devant les enfants, voyons.
Oui, mais qui se reculent un petit peu de
qui du se poste. Reculent, oui, par rapport
et
aux
alors,
autres.
Et alors les barbus, très loin.
C'est ça, par rapport aux autres qui sont de côté.
C'est ça.
En passant par le bout d'en haut.
Exactement.
C'est bien ça. Alors, ne bougez plus, mesdames et messieurs. Devant les enfants, en arrière les barbus. Alors, un.
Deux. Ça y est.
Voilà, ça y est. Je vous remercie. Merci, j'ai fort mal. Bon, maintenant, après cette petite interview qui a l'air fantaisiste comme ça, mais qui l'est beaucoup moins que s'il était davantage. J'ai à mes côtés une personnalité dont le nom est certainement très connu. C'est le petit-fils de l'inventeur du fusil Mauser. C'est bien ça, n'est-ce pas, M.
Oui,
Mauser
c'est ça.
M. Mauser est ici. Alors, il a bien voulu venir vous dire quelques mots. Il y a longtemps que vous êtes là, monsieur Maudin.
Ah oui, depuis un an, à peu près.
Oui, et ne vous occupiez pas de la fabrique d'armes, vous?
Ah non.
Non, non.
Non, nous faisons, nous fabriquons plutôt des articles pacifiques.
Ah oui, tant mieux.
Des fûts métalliques, par exemple, peut-être de la tolorique.
Oui. Et qu'est-ce qui est devenu l'usine?
Je n'ai aucune idée, vous savez, je suis ici depuis un an.
Oui.
Et j'ignore ce qu'il s'est passé pendant les combats d'occupation.
Oui.
Et j'espère qu'il reste encore quelque chose pour recommencer, vous savez, mais...
Ah, pour recommencer, okay. J'espère que ce ne sera pas pour recommencer des armes.
Ah non. Mais si pour les articles plutôt pacifiques, vous savez aussi, pour les fûts et pour les meubles en acier qu'on a fabriqués pendant la paix, vous savez.
Oui.
Et des machines pour l'agriculture et toutes ces choses comme ça.
Oui. J'ai entendu parler qu'on devait faire du point de vue arme, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, des lance-pierres à percussion centrale, mais ça, je ne suis pas absolument certain. Vous n'êtes pas au courant, monsieur Moser?
Ah non.
Non, c'est oui, ça ne m'étonne pas. Bon, et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant, monsieur Moser?
Ah, j'ai l'intention d'aller si vite que possible à Cologne, vous savez,
oui.
Pour voir s'il y a encore la possibilité de travail.
Oui.
Et ce qu'il est resté de mes usines,
oui.
J'en ai eu beaucoup.
Et... Je crois que c'est assez catastrophé, Cologne.
Ah oui. Je pense que c'est pulvérisé, je crois.
Nous sommes passés...
J'étais là pendant 3 ans, il y a presque tous les jours des bombardements.
Oui.
Et c'était formidable.
Ah, nous sommes passés le jour de l'entrée des Américains, avec la personnalité du monde photographique, leur portrait Roger Leroy, et évidemment que c'était très atteint. Enfin, que voulez-vous. Voilà, et bien monsieur Moser, je vous remercie de votre...
De rien, monsieur.
De votre présence, et je souhaite que vous repreniez le travail pacifiquement, c'est ce que nous souhaitons.
C'est ça.
Merci. Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, l'honorable M. Mauser est absolument ignorant des armes qui se fabriquaient dans les usines Mauser. C'est tout juste, il n'est pas eu à lui apprendre l'existence d'Hitler. Aussi ai-je tout lieu de supposer que, si d'aventure, je rencontrais les dirigeants de la firme Krupp, ceux-ci n'hésiteraient pas à me dire qu'on n'a jamais fabriqué chez eux que des tétines à réaction et des rameaux d'olivier blindés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous parle ce soir de Kitzbühel. Kitzbühel, c'est dans le Tyrol, après Innsbruck. C'est une des plus célèbres, sinon la plus célèbre station de sport d'hiver du Tyrol. En été, c'est également une station célèbre, mais pas pour les sports d'hiver. Enfin, on y fait des sports d'été. Je me trouve ce soir avec mes camarades de la radiodiffusion française, Biard et Philippe, et mon cousin, le reporter photographe, Roger Leroy. Chez une artiste célèbre dont mon nom va certainement vous rappeler pas mal de souvenirs. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, qui, comme vous le savez, a présenté une grande artiste de cinéma, directrice de production, du cinéma allemand, qui a présenté pas mal de films, tels que La Montagne Sacrée, Le Prisonnier de la Montagne, Tempête sur le Mont Blanc, La Lumière Bleue. Et elle est venue en 1938. Présenter les dieux du stade et la jeunesse olympique. Vous rappelez, Madame Leni Riefenstahl, de votre visite à Paris en 1938, je crois.
En 1938,
oui.
J'ai présenté mon film Les dieux du stade à Paris en Normandie.
C'est cela, au Normandie, c'est ça, au cinéma Normandie. Et vous avez gardé un bon souvenir de Paris?
J'aime Paris beaucoup.
Ah oui, je crois d'ailleurs que pas mal de vos compatriotes également. Et maintenant, Leni Riefenstahl parle très très peu le français, alors heureusement, grâce à l'amabilité d'un bon camarade, le capitaine Alius du gouvernement militaire de Kitzbühel, a bien voulu nous servir d'interprète. Voilà. Et à partir de... Leni Riefenstahl, je le rappelle brièvement, a préparé en 1939 un film qui s'appelait Fantaisie. Il y avait 4000 chevaux. Alors ce film n'a pas été tourné parce que les 4000 chevaux, on devait en avoir besoin pour certaines autres choses. En 1940, elle préparait aussi un film qui s'appelait à peu près, puisque c'est une traduction, Les Basses Terres. Et film qui n'a pas été terminé. Ce film s'appelait Les Basses Terres parce que Leni Riefenstahl voulait faire un film d'opposition avec les films de montagne, parce qu'elle a tourné beaucoup de films de montagne. Ce qui prouve, n'est-ce pas, que dans l'état allemand, il y a eu évidemment des hauts et des bas. Bon, en 1940,
De 1940 à 1940, la guerre est arrivée. De 1940 à 1945, qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît?
De 1940 à 45, j'ai été malade.
Oui, oh ben, je comprends, il y avait de quoi, n'est-ce pas, évidemment. Enfin, il y a tout de même des maladies qui vous arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas? Bon, voyons, qu'est-ce que je pourrais vous demander encore? Je ne vais vous demander grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez que Hitler est mort? Je vais vous rappeler.
Glauben Sie, dass Hitler tot ist?
Je crois.
Oui, vous croyez? Vous n'êtes pas certaine?
Sind Sie sicher?
Je crois.
Vous croyez?
Sure.
Oui. Enfin, Hitler lui a offert en 1933 la direction artistique des films allemands. Je crois qu'elle n'a pas accepté. Voulez-vous lui demander, s'il vous plaît?
Die Verwaltung der deutschen Filme, die Ihnen Hitler angeboten hatte, oft angenommen?
Non, ich habe nicht angenommen, niemals.
Elle a refusé toujours d'accepter la direction du cinéma allemand.
C'est cela. Oui, et je crois que elle n'était pas très bien, d'après ce qu'elle nous disait, Mme Riefenstahl nous disait tout à l'heure, elle n'était pas très bien avec le Dr. Goebbels, n'est-ce pas?
Sie waren nicht in einem guten Verhältnis mit dem Dr. Goebbels.
Ich habe mit Dr. Goebbels mich nie vertragen können. Er hat meine Kunst nicht anerkannt.
Elle n'a jamais pu s'entendre avec le Dr. Goebbels,
oui,
parce que le Dr. Goebbels n'a jamais voulu reconnaître son art.
C'est cela. Dites-moi, Madame Riefenstahl, je crois que ce bon vieil ami Hitler avait une profonde admiration pour votre talent.
Ich glaube, dass Frau Riefenstahl, ich glaube, dass Adolf Hitler eine große Ehre für ihre Kunst hatte.
Hitler hat meine Filme bewundert.
Hitler a admiré ses films.
C'est cela. Il a couru des bruits tendancieux, je suppose, entre les relations du Führer et de Leni Riefenstahl.
Elle
s'en défend d'ailleurs.
Es hat falsche Gerüchte gegeben über ihre Verhältnisse zwischen Adolf Hitler und Ihnen. Was können Sie mir darüber sagen?
Ich glaube, dass heute die ganze Welt weiß, dass diese Gerüchte falsch waren und dass ich nie die Freundin Hitlers war.
Je crois que aujourd'hui le monde entier reconnaît que je n'ai jamais été l'amie de Adolf Hitler.
Oh ben, il y a tellement de mauvaises langues dans le monde, ça c'est, il faut pas s'étonner des racontars, n'est-ce pas? Bon, naturellement, Madame Riefenstahl, vous n'avez jamais appartenu au parti nazi, n'est-ce pas?
Natürlich haben Sie niemals der Partei angehört.
Ich war nie Mitglied der Partei.
Elle n'a jamais été membre du parti nazi.
Bien, ça, bien entendu d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que, étant donné ses rapports avec le Dr. Goebbels, Leni Riefenstahl a été une résistante de la première heure et probablement une gaulliste qui s'ignore. Dites-moi, Madame Riefenstahl, quels sont vos projets maintenant?
Was sind, gnädige Frau, was sind Ihre
Pläne? Mein Wunsch ist, meinen letzten Film Tiefland fertigzustellen.
Son désir est de terminer son dernier film, Tiefland, la traduction française...
Les Basse-Terre.
Les Basse-Terre.
Eh oui, bon. Eh bien, mon Dieu, oui, je crois que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Personnellement, ce n'est pas moi qui peux y répondre. Et je crois maintenant que nous n'avons plus grand-chose à demander à Madame Riefenstahl, hein? Je ne pense pas. Oui, dites-moi, oui, une petite question à poser pour finir. Où pensez-vous terminer ce film?
Wo denken Sie, diesen Film beenden zu können?
Ich möchte ihn fertig machen, entweder in Wien oder in Paris.
Elle voudrait le terminer ou à Vienne ou à Paris.
Ah, c'est une excellente idée. Ça, je ne peux pas y répondre. Enfin, comme on dit, hein, Inch'Allah, ainsi soit-il. Tout comme le distingué philanthrope pacifiste Mauser, Leni Riefenstahl a, d'après ce qu'elle dit, vécu complètement en dehors du national-socialisme. Elle n'a fait que de l'art, uniquement de l'art, rien que de l'art et encore de l'art. J'ai tout lieu de supposer que les services de la sécurité ont là-dessus une opinion qui diffère légèrement de la sienne et qu'ils préparent à l'ex-égérée du Troisième Reich un petit scénario dont la mise en scène pourra lui réserver quelques surprises en rapport avec ses antécédents. Sur les bords du lac de Constance, on rencontre nombre de personnalités de toutes nationalités. Et je vais vous présenter maintenant le docteur Fouquet-Michels. C'est un nom comme ça qui ne vous dit rien
Et pourtant, le docteur Fouquet-Michels jouit actuellement, si l'on peut dire, d'une célébrité qui n'a, d'ailleurs ne l'enchante pas tellement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le docteur Fouquet-Michels est le beau-frère d'Adolf Hitler, dont vous avez peut-être entendu parler. La femme du docteur Fouquet-Michels est née Ilsa Braun, et la sœur donc d'Eva Braun, qui, paraît-il, s'est mariée in extremis deux jours avant la capitulation avec le Führer dont je viens de vous parler. Voilà, alors je voudrais lui poser très obligément, il veut bien se prêter à une interview. Il est là en ce moment, évidemment, il se balade un petit peu, enfin il connaît les choses que pas mal de nous avons vécues. Il est en prison pour l'instant, pas là, puisqu'il est dans le parc là-haut, donc il a quelque chose, enfin, je ne sais pas exactement pourquoi. Je crois que c'est surtout que cette parenté est assez gênante. C'est bien ça, docteur, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, malheureusement.
Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez vu quelquefois le Führer?
Je l'ai vu une seule fois.
Une seule fois?
Oui, il y a un an maintenant.
Où l'avez-vous vu?
À la noce de ma plus jeune belle-sœur,
oui.
Avec Fegelin.
Oui, c'est une belle noce.
Oh,
très simple. Oui, c'est dommage, j'aurais pu aller y faire mon tour de champ là-bas, mais enfin, on ne m'a pas invité. C'est agréable. Bon, et quelles étaient les relations que vous aviez avec lui, avec le Führer?
Pas de relation.
Pas de relation.
J'ai fait sa connaissance il y a un an.
Oui.
Et je l'ai vu une seule fois.
Il était aimable avec
vous? Il m'a parlé pas un mot.
Pas un mot? Ah, bah, évidemment qu'une conversation réduite à sa plus simple expression.
Il m'a représenté.
Oui.
Il a noué avec sa tête.
Oui.
Et après le dîner, je me remerciais.
Oui.
Il a noué de nouveau sa tête, c'était tout.
Il n'était pas très causant avec vous.
Non.
Il y a des moments où il parlait beaucoup plus que ça. Hein.
Oui.
À certains autres moments. Oui, et dites-moi, est-ce que votre femme était d'accord avec sa sœur au sujet
non.
De...
Non.
Non. Non. Non. Elle n'approuvait pas.
Par ça, il venait que les relations familiales étaient
tendues.
Très tendues, oui.
Oui, oui, oui.
Très tendues.
Oui, oui.
Ma femme est écrivaine, journaliste.
Journaliste.
Oui, elle a écrit pour le DAZ.
Oui.
Et pour Schlesische Zeitung.
Ah ben pour le Slip, ça ira très bien. Oui, oui, oui.
Oui.
Et vous, docteur, c'est quoi? Vous occupez de pas mal de choses artistiques aussi.
Absolument.
Oui, uniquement. Vous étiez, d'après, je crois, directeur de la vie culturelle en Basse-Silésie.
C'est ça.
Oui, et ça comportait quoi? Enfin, la vie culturelle, quoi, en Basse-Silésie.
En français, c'est un peu difficile.
Oui. Oh, ça ne fait rien, dites-le en allemand.
Ça veut dire Aufgabe, das kulturelle Leben in Niederschlesien zu betreuen.
Oui.
Und zwar. Außerhalb des Propagandaamtes.
C'est ça. Oui.
Und unabhängig vom Propagandaamt.
Oui, oui, oui.
Es war keine Parteistellung, sondern eine reine Stelle als auf Privatdienstvertrag.
Oui, oui, oui.
Und mein Gauleiter, der Chef, als Oberpräsident von Niederschlesien, hatte ganz besondere Ideen, die nicht immer ganz konform gingen mit denen von Goebbels.
C'est très bien. C'est bien ce que je pensais d'ailleurs. Je vous remercie, docteur. Et est-ce que vous pensez reprendre ça plus tard, naturellement, la vie culturelle en Basse-Silésie?
Peut-être.
Que soit
pas
en Basse-Silésie.
Non.
En Haute-Silésie, peut-être.
Non.
Non.
Je suis de Bad, de Mannheim.
Ah oui, de Mannheim.
Oui,
oui, oui. Est-ce que je vous pose une petite question, est-ce que vous croyez que Hitler est mort?
Je ne sais pas plus que vous.
Non, mais vous n'avez pas une impression personnelle.
C'est seulement que... qu'on a annoncé par le radio,
oui.
Qu'on a écrit dans les journaux.
Bon, en somme, vous ne savez pas, évidemment, vous n'avez pas plus de certitude que les autres pour savoir si Hitler est mort ou vivant.
Non,
évidemment. Dites-moi, vous apparteniez au Parti National-Socialiste?
Oui, j'étais membre depuis 1930.
1930?
Oui.
Et toi, c'était la première heure, ça.
Non.
Enfin, 1930. Et vous avez
Non.
Et vous avez fait de la politique militante dans le Parti National-Socialiste?
Non, jamais. Je n'étais jamais fonctionnaire, je n'étais jamais membre de SS ou de SA, quelque chose comme ça.
Oui, oui.
J'étais simple membre.
Oui, bien sûr. Voyons, il a été fondé en quelle année déjà le parti? Je ne rappelle plus l'année. Vous voyez que moi, je n'en faisais pas partie, je ne me rappelle pas très bien.
Je commence en 23.
Ah, en 23. Ah, bah oui, la marge. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Enfin, vous êtes vous-même. Quel genre de type était-ce tout de même, Hitler? Est-ce que c'était un fou, quoi?
C'est pour moi difficile à dire, hein? Les idées.
Oui.
Je ne connais pas au fond, parce que je l'ai vu une fois.
Oui. Oui, mais enfin, d'après ce qui s'est passé.
À l'occasion d'une noce, n'est-ce pas?
Oui, dans les noces, bien sûr. Il n'a pas chanté, ouais, la noce.
Non.
Non, oui, il a eu tort, oui, c'est ça. Il aurait dû chanter une petite chanson, ça lui aurait rafraîchi les idées, il aurait peut-être changé de. Oui, enfin, je vois bien ce que je veux dire, si je n'arrive pas à le dire tout de même. Bon, eh bien, écoutez, docteur, je vois plus grand-chose à vous demander. Hein? Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander encore? Vous voyez rien d'autre à dire?
Hein?
Vous voyez rien d'autre à dire vous-même?
Non, seulement j'ai le vœu de rentrer très bien chez ma femme. Oui.
En somme, comment dirais-je, cette parenté avec Hitler est une chose dont vous seriez certainement facilement passé.
Oui.
Oui. Oui, je vous demandais, je crois que votre femme ne voyait pas souvent sa sœur depuis qu'elle était en relation.
Une fois, deux fois par an.
Une ou deux fois par an. Oui, ça fait pas beaucoup. Oui. Eh ben voilà, docteur, hein, ben je pense que ça finira très bien par s'arranger. Hein. Tout finit par s'arranger dans la vie. Hein.
J'espère.
Toujours. Bien J'espère. Ou mal, mais enfin, ça s'arrange. Merci, docteur.
Bon.
Enfin, après bien des recherches, je viens de vous présenter un Allemand qui ne dissimule pas son appartenance au parti. Il est vrai qu'il affirme n'y avoir appartenu que platoniquement. Il semble être littéralement catastrophé d'avoir été le beau-frère d'Adolphe, ce qui n'est évidemment plus une référence. Laissons donc ces personnages à leur passé qu'ils renient et à leur avenir incertain. Quoi qu'il en soit, la chose la plus difficile qui soit à réaliser présentement, c'est de trouver un vrai nazi qui ne craint pas d'annoncer la couleur. C'est à se demander s'il y en a eu vraiment. Nous sommes heureusement un certain nombre qui conservons le souvenir cuisant de ces messieurs et dames de l'ordre nouveau. Puissions-nous ne jamais l'oublier. C'est la grâce que je nous souhaite, ainsi qu'à nos alliés d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
D'entendre un reportage de Pierre Dac, correspondant de guerre au Tyrol, diffusé le 8 août 1945 sur les ondes de la radiodiffusion française.